Radio Okapi. Le journal Blaise Chinali Kabala.
Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de ce journal, Kinshasa, stratégie nationale anti-explosif validée, l'UNMAS et les services de sécurité renforcent la lutte contre le terrorisme. Examen d'État 2026, optimisme des finalistes de Kinshasa au Maniema, les candidats affichent confiance et espoir. Ebola, suivi obligatoire et recherche clinique. Roger Kamba impose 21 jours de contrôle pour les voyageurs, tandis que l'OMS lance un essai sur deux traitements. Dieudonné Mwamba, directeur général de l'Institut national de santé publique en RDC, a donné son avis sur ces sujets débattus lors de l'émission Dialogue entre Congolais d'hier jeudi. Encore une fois, bonjour madame, bonjour messieurs. Une dizaine d'acteurs issus des divers services, notamment de l'armée et de la police, se réunissent depuis mercredi à Kinshasa dans le cadre des travaux de validation de la stratégie nationale de lutte contre les engins explosifs improvisés. À l'initiative de l'UNMAS, les participants passent en revue durant 3 jours les projets des documents définissant les actions et dispositions nécessaires pour protéger la RDC contre ses engins et renforcer son plan de lutte contre le terrorisme. Pour Jean-Denis Larsen, chef de service des Nations Unies anti-mines, la menace des engins explosifs demeure une préoccupation majeure. Il rappelle qu'en 2015, 5 à 7 engins étaient utilisés alors que la situation a décuplé en moins de 10 ans dans des régions comme Beni. Jean-Denis Larsen est au micro de Ronaline Tibonera.
La menace liée aux engins explosifs improvisés est malheureusement en croissance en RDC. En 2015, on a connu une moyenne annuelle d'incidents aux alentours de 5 à 6 incidents. Par contre, depuis 2021, ce nombre est basculé à 52 et l'année suivante en 5 à 7, c'est-à-dire plus d'un incident par semaine. Et cette menace, malheureusement, est restée à ce niveau-là. Ce qui est aussi inquiétant, c'est que tous ces incidents, bon, la plupart se déroulent dans la ville de Beni, raison pour laquelle nous avons organisé cet atelier pour voir comment on peut accompagner les partenaires nationaux dans le domaine de sécurité de l'État pour qu'ils soient mieux placés pour contrer cette menace.
Sachez que l'UNMAS, service de lutte anti-mine des Nations Unies, opère en RDC depuis 2002. Elle a pour mission de protéger les civils, éliminer les engins explosifs et renforcer les capacités nationales de sécurité. En Ituri, la dégradation avancée de l'axe Komanda-Mambasa sur la route nationale numéro 4 expose les usagers à de nombreux risques, notamment aux attaques des rebelles des ADF. Cette situation perturbe également les échanges économiques sur cette route stratégique qui relie les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, de la Tchopo et du Haut-Ouélé. Face à cette situation, la Fédération des opérateurs économiques de Mambasa appelle les gouvernements à réhabiliter cette infrastructure qu'elle considère comme un levier essentiel du développement de la région. Le point avec Isaac Remoyope.
La circulation est devenue de plus en plus difficile sur la route nationale numéro 4, particulièrement sur les tronçons Komanda Mambasa, long d'environ 90 km. Plusieurs bourbiers se sont formés le long de cet axe, notamment dans la zone de Bahaha, régulièrement ciblée par des incursions des rebelles des ADF. Des dizaines de véhicules en provenance de Bunia, chef-lieu de l'Ituri, mais aussi de Beni, Butembo et Kisangani se retrouvent fréquemment immobilisés pendant plusieurs heures, voire toute une nuit, faute d'alternatives pour contourner les zones impraticables. Les opérateurs économiques et les transporteurs dénoncent cette situation. Ils rappellent qu'ils s'acquittent régulièrement des taxes de péage route évaluées à près de $300 pour les camions ainsi que d'autres redevances. Selon eux, l'État doit assumer ses responsabilités en réhabilitant cette route d'intérêt national afin de faciliter les échanges commerciaux et de réduire l'exposition des voyageurs aux attaques des groupes armés. Kassere Kakinzonzoli, président de la COPEMECO Mambasa.
On se sent un peu abandonné. Là où il y a des bourbiers, c'est là où il y a plus les incursions des ADF NAL. Pour protéger la population, il faut qu'on puisse songer à nous.
Cette route est empruntée chaque jour par des centaines de véhicules depuis l'effondrement du Poitouride de Mambasa. Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Bandounouville, chef-lieu de la province du Kwilu, demeure enclavée depuis 2022. Les habitants éprouvent de sérieuses difficultés pour se rendre à Kinshasa, la capitale du pays. La route nationale numéro 17, RN17, principal axe routier reliant Bandundu à Kinshasa, reste impraticable en raison de l'insécurité persistante qui sévit sur une partie de ses corridors. Cette situation affecte considérablement la mobilité des personnes et le transport des marchandises entre les deux villes. Faute d'alternatives routières fiables, de nombreux voyageurs sont contraints d'emprunter la voie fluviale à bord des baleinières malgré les risques liés à ces moyens de transport. Face à cette situation, les habitants de Bandundu lancent un appel au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, afin que soit concrétisée sa promesse faite lors de la 13e conférence des gouverneurs portant sur la réhabilitation de la route Mongata-Bandundu, un projet jugé essentiel pour le désenclavement du chef-lieu de la province du Kwilu. Le Centre d'études pour l'action sociale CEPAS appelle les responsables politiques, leaders religieux et aux acteurs de la société civile à sensibiliser davantage les Congolais sur les accords économiques et miniers que le pays a signé avec les États-Unis. C'est la principale recommandation des journées sociales du CEPAS, édition 2026, qui se sont officiellement clôturées ce jeudi à Kinshasa. Pour les directeurs du CEPAS, il est question de s'approprier ces accords pour que la RDC en tire réellement bénéfice en faveur d'une paix durable. Les propos du père Alain Zadi ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyam.
L'une des recommandations principales actuellement, c'est d'abord de s'approprier ces accords, parce que au moment où ces accords étaient conclus, il y avait une sorte d'opacité. La société civile et les restes de la population étaient tenus à l'écart. Maintenant, il s'agit de nous les réapproprier afin d'assurer les monitoring et de voir leur implémentation dans leur mise en œuvre. Comment la partie congolaise peut réellement tirer bénéfice de ces accords pour que ça ne soit pas simplement à l'avantage surtout de la partie américaine. Par la population, nous avons parler de sensibilisation et de la société civile sur les accords, donc les faire connaître, sensibilisation, éducation civique. Et pour que enfin la paix revienne dans notre pays, nous avons également parlé de mobilisation et de poser des gestes en faveur d'une paix durable, pas simplement une paix transactionnelle, mais aussi tenir compte de tous les autres paramètres pour que cette paix devienne une paix durable sur le terrain. La recommandation, c'est de placer l'intérêt du Congo au-dessus de tous nos intérêts égoïstes. Donner au pays des lois qui survivent aux acteurs politiques, c'est-à-dire des lois qui tiennent d'abord compte de l'intérêt du pays.
Les épreuves de l'examen d'État session 2026 ont pris fin ce jeudi sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, dans les centres de l'Institut de la Gombe et du lycée Bossangani, dans la commune de la Gombe, les finalistes ont livré leurs impressions après 4 jours d'examen. Presque tous sont optimistes quant à leur réussite, malgré quelques difficultés rencontrées, notamment lors de certaines épreuves. Reportage signé Gloriane Lepea.
À la sortie du dernier examen, l'ambiance était marquée par un mélange de soulagement et d'espoir. Après 4 jours de preuves intenses, plusieurs candidats se sont dit confiants quant à leurs prestations et satisfaits du déroulement global des examens. Pour plusieurs candidats, les épreuves se sont bien déroulées. Johnny Delcipe, élève en option sciences, estime que la plupart des matières avaient été déjà vues en classe.
Ce dernier jour, c'était plutôt facile parce que c'était les langues français, anglais. Donc ça s'est bien passé, mais je sais pas, ça dépendait des séries. Mais moi, j'ai vu tout ce qu'on étudiait à l'école, juste qu'il y a eu certains trucs que je ne maîtrisais pas déjà à l'école. Du coup, ça m'a un peu compliqué ici, mais ça s'est très bien passé par rapport à tout ce que j'ai accompli. Je m'attends à des bons résultats.
D'autres finalistes évoquent cependant des difficultés, notamment en culture générale. C'est le cas de Divin Mwamba, élève de la section scientifique de l'IGD Don Bosco.
Pour commencer par le challenge, il faut dire qu'on a été souvent surpris, surtout en culture générale, puisque nous avions sous-estimé la culture générale en pensant que ce n'était pas un cours vaste. Mais en effet, c'était un cours assez vaste et ça nous a posé quelques petites complications au début, mais on a pu s'en sortir.
Les finalistes attendent désormais la publication de résultats avec l'espoir de voir leurs efforts récompensés.
Dans le même registre, dans la province éducationnelle Maniema 1, les autorités politico-administratives et scolaires affirment que tout s'est bien passé dans tous les centres et il n'y a pas eu d'incident majeur. Du côté des finalistes, chacun affiche des signes d'espoir et de confiance tout en promettant de bons résultats. Florence Kizalunga, reportage.
Tous les finalistes rencontrés affirment avoir bien travaillé car selon eux, les questions étaient abordables et faciles.
Vraiment, madame, de la manière dont les examens ont été composés, les questions étaient abordables aux matières vie en classe.
De la façon dont j'ai travaillé, je suis rassurée que j'aurai mon diplôme cette année.
Le prophète confirme que même dans les zones jugées moins sécurisées, les enfants ont bien passé l'examen. Jacques Mouto Balingene.
Pendant les 4 jours, nous avons été en supervision avec les superviseurs nationaux. Nous avons sillonné plusieurs centres. Le travail s'est bien déroulé car aucun incident n'a été signalé dans les centres de la ville de Kindu, mais également dans les autres centres disséminés dans les autres sous-divisions. Parce que là où il y avait des problèmes, c'est ce que nous craignions, c'était à Lubutu, mais tout s'est bien passé sans problème. Dans l'ensemble, tout s'est passé dans le calme.
Sachez que plus de 14 000 candidats ont pris part à l'examen d'État dans la province éducationnelle Maniema 1 où ils étaient répartis dans 49 centres. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Le Media Lab consacré au journalisme inclusif s'est achevé ce jeudi à Kinshasa après 2 jours d'échanges et d'exercices pratiques organisés par la section genre de la MONUSCO en partenariat avec les départements de l'information publique. Cette formation a réuni plus de 50 professionnels des médias autour des questions de paix, de cohésion sociale et d'égalité des genres. Les participants ont renforcé leurs connaissances sur l'agenda femmes, paix et sécurité. Nacha Tambo pour les détails.
Cette rencontre a été marquée par le partage d'expériences et de connaissances. Les objectifs de cette formation ont été atteints. L'enthousiasme de participants témoigne de l'intérêt accordé à ces thématiques.
Nous croyons que les participants vont appliquer ce qu'ils ont acquis aujourd'hui dans la mesure où, après qu'ils aient eu cette partie théorique, et aujourd'hui c'était la pratique, on a laissé aux participants le temps de vraiment s'imprégner de tous ces volets.
Le formateur salue l'engagement et la participation active de professionnels de médias tout au long des travaux et exercices pratiques.
Ils ont compris comment on peut monter une vidéo dans l'agenda FPS, comment on peut aussi monter ou bien écrire un papier dans cet agenda. Ce que j'apprends comme leçon, c'est qu'ils ont appris, ils ont apprécié.
Du côté des participants, l'expérience est jugée enrichissante et utile pour la pratique quotidienne.
Mon impression est bonne parce que tout le monde a assimilé, ça c'est une bonne chose. Mais ma recommandation était que nous puissions rattacher à cette formation l'agenda Jeune PC. Il y a eu des simulations, des travaux pratiques.
Le Media Lab s'achève sur l'engagement des participants à promouvoir un journalisme plus inclusif au service de la paix. Ces 2 jours de formation se sont clôturés par la remise de certificats et récompenses aux participants.
Réduire la déforestation, améliorer la santé des familles et promouvoir des modes de cuisson plus respectueux de l'environnement. C'est l'objectif de la campagne de communication pour l'adoption des solutions de cuisson propres lancée ce jeudi à Kinshasa. Une initiative du ministère de l'Environnement et Développement Durable, l'unité de coordination du programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes Piforest et de l'Agence nationale des services énergétiques en milieu rural et périurbain en serre avec plusieurs autres partenaires. Financé par la Banque mondiale, ce projet vise à encourager les ménages à se tourner progressivement vers les alternatives au charbon de bois et aux foyers traditionnels. Christian Makasinga, reportage.
Ainsi, nous déclarons officiellement lancer la campagne de communication Mbabola économique.
Sensibiliser les ménages aux avantages de la cuisson propre, c'est le pari de cette campagne lancée par les secrétaires généraux du ministère de l'Environnement et portée notamment par l'Agence nationale des services énergétiques en milieu rural et périurbain, l'ANSER. Pour son directeur général, l'objectif est d'accompagner un changement durable de comportement.
La campagne que nous lançons aujourd'hui vise à sensibiliser les dizaines de milliers de ménages à travers nos provinces, en mettant à la disposition de la population une information claire, crédible et adaptée. Réalité locale.
Parmi les solutions promises figurent des foyers améliorés. Selon leurs fabricants, ces équipements permettent non seulement de réduire la consommation de combustible, mais aussi de limiter les dépenses des ménages et les risques sanitaires liés à la fumée.
Lorsqu'un bras zéro dure entre 5 et 10 ans, ça veut dire qu'on sera spontané. Les bras zéro émet moins de fumée. La femme peut être là, toute la famille est réunie. On va cuisiner avec Ecoa. La salle ou la cuisine ne sera pas polluée et les gens peuvent respirer de l'air frais.
À travers cette campagne, les organisateurs espèrent accélérer l'adoption de solutions de cuisson propres afin de réduire la pression sur les forêts et contribuer à la lutte contre les changements climatiques en RDC.
Actualité internationale.
Coupe du Monde 2026, Franck Kessier, capitaine de la Côte d'Ivoire, savoure la première qualification des éléphants pour les 16e de finale d'une Coupe du Monde. Entre fierté, humilité et ambition intacte, le milieu ivoirien évoque la force du collectif, son rapport au rêve et l'honneur de porter les brassards après les légendes Drogba et Yaya Touré.
L'invité.
Toute personne en provenance des zones affectées par la maladie à virus Ebola devra désormais observer une période de suivi de 21 jours avant d'effectuer un déplacement sur les territoires nationaux ou à l'international. Cette mesure a été annoncée ce mercredi 24 juin par le ministre de la Santé publique Roger Kamba à la télévision nationale congolaise dans le cadre du renforcement de la riposte contre l'épidémie à virus Ebola. L'émission Dialogue entre Congolais a abordé hier cette thématique et Dr Dieudonné Mwamba, directeur général de l'Institut national de santé publique en RDC, qui y est participé, a donné son avis sur cette question. On l'écoute au micro de Dona Madimba Mbaya.
Docteur Dieudonné Mwamba, directeur général de l'Institut national de santé publique de la République démocratique du Congo, pour le grand public, la gestion de la 17e épidémie à virus Ebola RDC, il y a des progrès mais aussi des faiblesses. Mais pour vous, plus d'un mois après et en toute honnêteté, quel est le bilan à ce jour de la situation et selon vous, est-ce que c'est progrès ou plutôt une riposte en échec?
Si on peut faire le bilan à ce jour, plus de un mois et 10 jours depuis la déclaration de cette épidémie, parce qu'il faut se souvenir que cette épidémie a été déclarée par Son Excellence Monsieur le Ministre le 15 mai 2026. Donc à ce jour, en termes de, si on peut parler de bilan ou de la situation épidémiologique, nous sommes à plus de 1100 cas confirmés, avec 291 décès confirmés. Et comme vous l'avez dit, il y a des décès, mais on a aussi quelques progrès parce qu'on a des guéris. Nous sommes à 122 guéris à ce jour. Et le taux de suivi des contacts, nous sommes autour de 77,1% de suivi des contacts. Et les progrès réalisés aussi au début de l'épidémie, on avait qu'un seul centre de traitement qui prenait en charge les cas d'Ebola. À ce jour, nous en avons autour de 9 centres de traitement qui prennent en charge les cas d'Ebola. Et nous avons aussi décentralisé le laboratoire parce que au début de l'épidémie, les échantillons devaient quitter certaines zones de santé, la province de l'Ituri, jusqu'au niveau de Kinshasa pour poser le diagnostic. Et à ce jour, nous sommes déjà à plus de 7 laboratoires qui posent le diagnostic par rapport à cette maladie. Et nous sommes en train de continuer son extension des laboratoires pour aller jusqu'au tour de 15 laboratoires qui doivent être placé au niveau des zones de santé dans les 3 provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu.
Qu'est-ce qui, selon vous, a fait que cette épidémie particulière qui suit 16 autres épidémies auparavant n'ait pas pu être maîtrisée rapidement avec l'expertise qui existe déjà et qu'on en arrive aujourd'hui à 3 provinces attaquées et on ne le souhaite pas avec le cas exporté de l'étranger, peut-être une épidémie qui risque de s'exporter à l'international.
Bon, la particularité de cette épidémie, la 17e qui survient, comme je l'ai dit, dans une zone avec une densité de population très élevée et pour laquelle, avec ce mouvement de population, c'est ça qui fait que la propagation de cette épidémie a pu partir de la province de l'Ituri pour aller jusqu'au nord Kivu et au sud Kivu.
Dieudonné Mwamba, on en est arrivé aujourd'hui à l'idée, la semaine prochaine, d'expérimenter deux traitements éventuels. Comment on en est arrivé là? Dites-nous un peu plus sur ce traitement. Et est-ce que ce n'est pas seulement de l'agitation qui nous conduit à cette expérimentation, ou bien c'est vraiment une opération qui peut aboutir à des résultats escomptés?
Il y a des candidats. Donc cette recherche, c'est un essai clinique autour des candidats qui existent, des molécules et des vaccins qui existent et qui ont été utilisés pour Ebola Zaïre, mais pour lesquels il faut voir maintenant si ces vaccins ou ces molécules peuvent aussi être adaptées à la souche Mbudibudio. Donc, on a des anticorps monoclonaux qui vont être expérimentés, et puis des antivirales à large spectre qui vont aussi être expérimentés avec essais cliniques pour voir leur efficacité sur la souche Mbudibudio et arriver à les valider si on va déterminer leur efficacité, et ça pourrait être vraiment des traitements spécifiques et efficaces contre la souche Mbudibudio.
C'est par cet avis du docteur Mwamba, directeur général de l'Institut national de santé publique en RDC, que nous bouclons notre journal de ce matin, coordonné et supervisé par Jude Mystère Bilandan Kumar et mis en onde par Pierre Diassinois.